cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte, cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Cultivons notre jardin, une émission 100% locale, animée et présentée par Nat et Jackie. Nat, t'es là, comment vas-tu?
Salut Jackie, je vais bien, merci, et toi?
Eh bien écoute, ça va, il fait beau au moment où on enregistre, avec un léger décalage, voilà, donc cette émission ne sera pas en direct.
Eh oui, parce que Jackie se promène. Nanana. Bon, et sinon, à part te promener, Jackie, est-ce que tu as peu travaillé pour cette émission?
Eh bien oui, j'ai travaillé. J'ai choisi quand même, avec la période, de vous parler de l'entretien au jardin pour cet automne. Et voilà, donc vaste sujet. On abordera quelques travaux à faire. Et toi, tu as eu des idées?
Eh bien, écoute, oui, quelques-unes, mais j'en ai gardé que deux. Je vous donnerai un petit peu des nouvelles du mouvement Nous voulons des coquelicots. On vous en parle régulièrement. Donc là, il y a eu quelques actus. On va vous en faire profiter. Et puis aussi, je voulais vous parler des Japonais qui produisent du bois depuis 700 ans sans abattre d'arbres.
Alors ça, c'est fort, hein. Il y a bien que les Japonais pour arriver à faire ça.
Dingue, dingue, dingue. Et voilà. Mais si, je vais rappeler quand même les jours de diffusion de cette magnifique émission. Donc, les jeudis à 12h30 et dimanche matin à 9h10. Voilà, voilà.
Alors, on va pouvoir démarrer donc sur l'entretien au jardin. L'automne, c'est toujours une période un petit peu charnière, hein, où on va commencer par les récoltes des derniers fruits, que ce soit les cucurbitacées, que ce soit encore les haricots tardifs, par exemple, hein, pour ceux qui en ont mis, les carottes ou autres, panées, tout ça. Donc, on va récolter un petit peu nos fruits en se disant, c'est bien de le faire avant le gel. Si on a un moyen de les conserver dans le sable pour l'hiver, c'est une bonne pratique qu'on peut faire. Et puis, on va aussi en profiter pour récolter des graines en même temps.
Hein, oui, c'est le moment.
On a parlé de ça déjà plusieurs fois, la récolte des graines. Les graines sèches, pas de problème. On met ça dans des petits sachets. C'est la meilleure solution, des petits sachets en papier. Ça peut être des... on recycle, hein, dans cette émission, donc ça peut être des enveloppes usagées. On marque dessus le nom de la plante, la variété et surtout l'année. Qu'on sache un petit peu, à un certain moment, virer nos vieilles graines. Donc là, on va marquer pour 2020. Alors, on va ensuite les conserver. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ça dans des tiroirs, dans un petit meuble qui est dans un bâtiment qui est non chauffé. C'est le meilleur moyen pour conserver les graines dans un endroit qui soit frais.
À condition que ça ne soit pas humide, j'imagine.
Voilà. C'est pour ça hein. qu'on a toujours le papier. Hein. Même des fois, vous pouvez aussi mettre tout ça, tous vos sachets papier dans une boîte à chaussures, par exemple. Le carton a les mêmes propriétés, hein, pour absorber l'humidité. Donc voilà. Ça, vous devez conserver vos graines intactes, et indemnes pour la saison prochaine.
Voilà, protégées dans du carton qui vous donnera vite des signes d'humidité. Besoin.
Alors au jardin, on va parler un petit peu du potager. Là, on a récolté, donc ça veut dire qu'on a des surfaces de jardin qui sont où la terre est à l'air libre.
Ouais.
Donc c'est la période où il va falloir recouvrir toute cette terre pour éviter en fait le martèlement de la pluie dessus. Donc je vais semer des engrais verts. Alors, des engrais verts, il y en a vraiment pléthore. Hein. C'est aussi bien du trèfle incarnat, de la facélie. Ça peut être des vesses, des pois, des lupins et même aussi la moutarde. avec une petite précaution à prendre. Là où vous mettez de la moutarde, vous ne mettrez pas vos choux après.
Hein, ah oui, sinon il y a une prochaine. Bête, c'est ça. Hein.
Non, c'est que en fait la moutarde est une brassicacée, c'est-à-dire
ah
c'est
oui,
la même famille
chou.
Que les choux.
Et il faut
donc,
faire des
ils
rotations.
Ils ont les mêmes besoins, donc voilà. Il y a une idée effectivement de rotation, comme tu le dis. Donc on mettra plutôt les choux à l'endroit où on a mis du trèfle incarnat ou de la facélie, par exemple.
Donc on ne laisse pas notre terre comme ça toute nue. La pauvre, elle va avoir froid cet hiver. Et vous y mettez un engrais vert. L'intérêt de l'engrais vert, Jackie, je crois que tu l'as pas dit. C'est très important. Ça fait quoi un engrais vert?
Ben comme son nom l'indique, ça va faire de l'engrais. C'est-à-dire qu'au moment où il va être en fleur, on va le sectionner, le couper. Et en fait, il va restituer à la terre, on va le laisser sur place, hein, il va restituer à la terre tout ce qu'il avait pu prendre comme oligo-élément dans le sol. Et cet engrais vert a des racines profondes et va donc remonter ces oligo-éléments de très profond et apporter de l'azote qui va servir au printemps. À dire aussi que... Vous avez dégagé votre terrain et souvent on se dit « Ah oui, mais il me reste des poireaux, il reste des carottes là que j'ai laissées en terre, alors je ne vais pas faire mes engrais verts maintenant. » Aucun souci pour ça, vous faites les engrais verts autour.
Autour, voilà.
Voilà, mais remettez pas à chaque fois le fait de semer votre engrais vert. Ça se fait vraiment dans les jours qui viennent là. Surtout, faites ça au fur et à mesure que le terrain est nu.
Dès que possible. Et ensuite, tu as dit aux gens qu'il faudrait qu'ils le coupent, l'engrais vert. Mais à quelle période, à peu près, juste pour avoir une idée?
Quand il est en fleur.
Quand il sera en fleur, c'est quand? C'est au printemps.
Pour ne pas se ressemer. Ben, ça va dépendre
de l'engrais.
Du moment où on l'a semé et surtout du temps qu'il va faire dans cette arrière-saison.
C'est vrai aussi.
C'est pour ça qu'il faut mieux dire quand il est en fleur.
Très vite quand il est en fleur, parce que dès qu'il est en fleur, après il va faire les graines, on est d'accord.
Les graines, et puis qui vont se ressemer, et après ça sera des indésirables dans votre potager, puisque vous ne l'aurez pas choisi. Les endroits où vous n'avez quand même pas du tout envie de faire des engrais verts, par exemple les endroits où il va y avoir des oignons, hein, oignons, échalotes, il faut savoir que là, ce sont des plantes qui n'aiment pas trop les parties très engraissées. Mais à ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à préparer, puisqu'en fait, on va planter ces tubercules assez tôt. Et bien, vous pouvez préparer le sol en paillant. Vous paillez, que ce soit avec de la paille, avec du foin, même avec du carton, hein, ça marche très, très bien. Avec du carton, et donc vous allez pouvoir préparer votre sol justement pour être tout à fait tranquille dès qu'il va commencer à faire beau au mois de février-mars. Hein, souvent c'est janvier-février, et puis ensuite on fait les échalotes et les oignons.
Très bien, Jackie. Alors je récapitule légèrement, synthétiquement ce que tu viens de nous dire. Donc les gens, vous avez fini de ramasser à peu près tout ce qu'il y avait au jardin. On est d'accord?
Oui.
Tous les endroits où il n'y a rien, où la terre est à nu, vous allez y mettre un engrais vert que vous couperez juste dès qu'il sera en fleur. On est d'accord?
Voilà.
Et vous le laisserez sur place, cet engrais vert. Il va remonter les oligo-éléments de l'intérieur des profondeurs du sol et en plus, il va azoter. Ce qui fait que derrière, vous pourrez semer plus tranquillement. Donc, vous vous en servirez un petit peu de paillage quand vous le couperez. Si vraiment vous laissez des choses en terre comme les carottes ou les poireaux, comme tu disais, ça arrive souvent, c'est pas grave, vous faites le tour avec votre engrais vert ou vous pouvez aussi laisser un carton disposé avec le moins d'encre possible, voire pas du tout, évidemment, oui. Puisqu'il y a du plomb dans l'encre. Donc, un carton neutre et vous le posez et ça sera parfait pour semer votre ail au mois de janvier-février.
C'est ça. Et alors, pendant qu'on y est là, par exemple, où on a laissé les poireaux qui vont servir à faire des bonnes soupes l'hiver, là aussi, paillez, mettez 20 cm de paille à vos poireaux. Comme ça, même s'ils gèlent un petit peu fort cet hiver, eh bien, la terre sous ce paillage ne sera pas gelée et vous pourrez arracher vos poireaux comme vous le voudrez.
Ils seront protégés, vous pourrez les sortir facilement. Super.
Voilà. Alors, on peut aussi faire un petit tour par le jardin d'agrément.
Eh oui.
Donc là, il y a les tailles d'automne à faire. Là aussi, il y a du paillage pour protéger les plantes les plus fragiles pour l'hiver. Hein. Je pense aux hortensias, par exemple. Alors, Moi, je préconise très peu de nettoyage, par contre.
Oui.
Il faut savoir que les plantes qui ont été très belles, je pense aux plantes vivaces, par exemple, dans le jardin d'agrément, elles ont besoin
des feuilles sèches
de leurs composants comme ça qui vont se sécher et qui vont faire un paillage naturel.
Et oui.
Il faut bien se dire que tout ça, c'est naturel. C'est un passage normal pour ces plantes. Donc, on nettoie peu. Par contre, on va penser quand même à nos auxiliaires, hérissons, crapauds, vers luisants,
oui,
des carabes, etc.
Bestioles.
Toutes ces petites bestioles, justement, vont être aussi très intéressées par le fait qu'on ait du paillage, qu'elles puissent se planquer sous la paille, qu'elles puissent prendre un petit peu la température un peu plus clémente sous un tas de bois, par exemple. Donc, un jardin pas trop propre pour l'automne, contrairement à ce que je vois faire souvent, qui est un grand nettoyage, mais à ce moment-là, il y a plus de place pour la biodiversité.
Donc, et pensez à nos amis les hérissons, qui souffrent depuis quelques années quand même. Donc c'est voilà. Sympa de leur. Le hérisson, il aime vraiment se cacher dans les trucs de paille, là, de branches mortes, de feuilles mortes. Et puis si vous en avez au jardin, c'est super.
Voilà. Et donc, puis si vous avez du mal à trouver des feuilles, lui, il va arriver à se trouver à couper des herbes ou des choses comme ça. Mais l'idéal pour lui, c'est un petit peu un tas de bois qui manquerait une ou deux bûches vers le bas. Donc, dites-vous ça dans la tête et puis ça peut donner plein d'idées.
Pour faire pousser des hérissons dans son jardin.
Voilà.
La méthode de Jackie.
Alors, il y a aussi, puisqu'on est dans les amis auxiliaires, il y a aussi les oiseaux auxquels
oui.
il faut penser. Donc, mon idée, c'est qu'à l'automne, comme ça, je vais remettre la mangeoire. Alors, une mangeoire pour les oiseaux, c'est un endroit le plus libre possible. C'est-à-dire, on imagine un plateau, par exemple, avec quatre petits piquets dans les angles et puis un couvercle pour que les graines ne soient pas soient protégées des intempéries. Les oiseaux vont venir manger et puis surtout, ils vont pouvoir regarder à gauche, à droite, comme ils aiment bien faire, s'il n'y a pas un prédateur, un chat, un épervier, etc.
Et éviter de placer cette mangeoire près d'un promontoire qui pourrait servir à un chat.
Voilà, il faut qu'on y pense.
Et mettez des clochettes à vos chats, c'est indispensable.
Voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'oiseaux qui sont tués tous les ans par les chats.
Ouais.
C'est énorme. Donc, si on peut y faire quelque chose, on y fait quelque chose. Le fait aussi de les nourrir un peu pendant l'hiver comme ça, ça va les rendre aussi beaucoup plus actifs, ces oiseaux. Et
oui.
Et puis donc, avoir moins de risques de finir dans la mâchoire du chat. Qu'est-ce qu'on met dans les mangeoires? On va mettre des graines de tournesol et si possible du tournesol bio.
Oui.
Donc, essayez de trouver du tournesol bio. Les associations environnementales souvent en proposent à leurs adhérents et ça me paraît intéressant de faire travailler justement des petits agriculteurs bio pour fournir cette graine de tournesol, même si je l'achète 10 ou 15 centimes plus cher que dans la grande surface.
Ouais.
Alors, en même temps, pour les oiseaux, on va aussi disposer des nichoirs. Alors, si on en a déjà dans son jardin, ça va être le moment de les nettoyer.
Ah oui, c'est vrai, il faut les désinfecter et tout.
Voilà. Non seulement les... Alors, on va commencer par le début. Je décroche ou je décroche pas, mais je retire tout le nid qu'il y avait dedans. Par exemple, prenons l'exemple des mésanges qui vont faire des gros nids dans les nichoirs avec des mousses, avec des plumes, des poils. Il y a beaucoup de choses dedans. Il faut savoir que chaque année, ils vont refaire le nid. Ils ne se servent pas du nid précédent.
Donc, il faut déboucher le nid.
Donc, on va retirer ce qu'il y a dedans, bien nettoyer, parce qu'il y aura tout un tas, même peut-être des fois des petites bestioles qui sont venues manger dedans après que la nichée se soit envolée, par exemple. Donc, on va bien nettoyer ça. Si possible, y mettre un petit coup d'eau de Javel pour désinfecter.
De vinaigre blanc, Jackie.
Ou de vinaigre blanc.
Merci.
Oui.
Tiens.
Ouais, mais.
Ouais, voilà, mais non, il y a pas de. Ouais,
bien
mais...
désinfecté.
Oui, hein. Mais le vinaigre blanc marche très voilà. Bien. Prenez-en à 14 degrés, tout se passera bien.
Voilà. D'accord. Un bon conseil. Donc, on désinfecte bien et puis on remet en place comme il faut. Il faut savoir que même pendant l'automne et l'hiver, c'est important d'avoir son nichoir d'accroché parce que d'abord, les oiseaux vont s'y habituer, vont voir ce que c'est, aller voir à l'intérieur en vue du printemps suivant. Et il y a aussi si on a quelques nuits froides, il n'est pas rare que certains oiseaux qui se sentent un petit peu frigorifiés aillent passer plutôt la nuit dans un nichoir. Au printemps, regardez quand même, d'ailleurs, moi ça m'est déjà arrivé de trouver un oiseau mort. Bah, pendant l'hiver, il est allé mourir dans le nichoir parce qu'il ne devait pas se sentir très bien. Et peut-être qu'il a eu une mort plus douce que s'il s'était fait attraper par un chat qui aurait joué avec. Voilà, donc mangeoire, nichoir, c'est des choses à faire aussi au jardin en ce moment.
On nettoie les cahutes des oiseaux et on leur donne à manger uniquement du tournesol en bio, s'il vous plaît.
Et alors, c'est de novembre à mars, pardon. Hein, on s'arrête à peu près à la fin mars. Et début novembre, on peut commencer à nourrir comme ça les oiseaux.
Voilà, vous les aiderez. Merci pour eux.
Voilà. Et alors maintenant, on va avoir un petit peu un sujet de Nathalie.
Ah ben oui, ça va changer un peu, tiens. Ah ben on va donner à nos auditeurs et nos auditrices, on va leur donner un petit peu des nouvelles du mouvement Nous voulons des coquelicots, célèbre mouvement dont nous vous parlons déjà depuis plus d'un an, tranquille. Hein
oui.
Qu'est-ce que t'en dis?
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez les coquelicots?
Il y a une actualité.
Bon, alors, il y en a eu une, mais malheureusement, RIP les abeilles, reposez en paix, n'est-ce pas? Puisque dans la nuit du 5 au 6 octobre, les députés ont décidé de remettre la peine de mort pour nos amis les abeilles en réautorisant l'introduction des néonicotinoïdes, donc uniquement pour essayer de sauver l'industrie betteravière, etc., etc. Bon, bref, c'est la catastrophe. On n'est pas content, Jackie?
Non, on n'est pas content parce que on privilégie certaines choses. Est-ce que c'est mieux de privilégier l'obésité ou les abeilles? Voilà.
C'est ça qu'on peut se demander,
on peut
choisir. Moi, j'aime bien les abeilles. Et alors, sinon, ils ont fait autre chose. Enfin, alors, malheureusement pour eux, ils avaient quand même lancé un appel. C'était chouette, où il y avait 30 organisations, WWF, Greenpeace, la Fondation Nicolas Hulot, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique. Enfin, pas que des énervés, quoi. Des gens qui sont plutôt sérieux, qui sont plutôt... voilà. Et bon, ben, tous ces gens-là avaient signé quand même l'appel pour... interdire la réintroduction de ces néonicotinoïdes, rien n'y a fait. Voilà.
On peut le déplorer quand même.
On le déplore, exactement.
Voilà. Il y a certaines actions comme ça qui sont assez affolante. Bien quand même dire qu'on est quand même assez nombreux par le net à avoir été au courant et avoir quand même signé des pétitions.
Aussi.
Il faut pas se décourager, il faut continuer. On a des députés, les députés doivent être l'expression, sont les courroies de transmission en tout cas de ce qu'on peut penser. Donc n'hésitez pas quand il y a des choses comme ça, à mon sens, à écrire à votre député. Au moins, il sera au courant de ce que vous pensez.
Ouais, c'est une très bonne idée. N'hésitez pas à écrire. Bon, alors sinon, nos amis des coquelicots, ils lancent un nouveau mouvement ou un sous-mouvement, je ne sais pas comment on peut dire. Après, Nous voulons du coquelicot, ils lancent une autre branche qui s'appelle Nous voulons des paysans. C'est une bonne idée, non?
Oui, parce que on a besoin de paysans.
On a besoin de paysans. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vous la fais rapide quand même, hein, je vous épargne. Donc, officiellement, les paysans ne sont plus que 430 000 aujourd'hui en France, alors qu'ils étaient 7,4 millions en 1946. Ça fait mal, ça, hein?
Eh oui.
Voilà. Nous avons tous cru que le glorieux travail de la terre pouvait être remplacé par le pétrole, les engins et la chimie. Nous, paysans et non-paysans, hein?
Eh oui, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on nous a fait croire, en tout cas.
Oui, et puis on a bien voulu y croire aussi.
Oui, bien sûr,
voilà, la recherche de facilité, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, cette vision nous a conduit dans une impasse. Hein, je vous refais pas la sixième extinction de masse et tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au niveau des sols. En tout cas, le constat est simple, c'est qu'il faut changer.
Et oui.
La France, selon le mouvement Nous voulons des paysans, donc la France manque de millions de paysans heureux, fier de nourrir la société tout en retrouvant l'harmonie avec la nature ?
Jackie. Oui, parce que ce serait un... Mais c'est, normalement, c'est la base même de leur travail. Hein. Donc,
oui, tout à fait.
Voilà, quand on choisit d'être paysan, ben, c'est bien justement pour être dans la nature, essayer de trouver une harmonie et non pas faire de l'industrie dans la campagne, quoi.
Ben ouais, c'est ça. Et en fait, donc le mouvement Nous voulons des paysans nous dit que seule leur présence permettra de faire face ensemble aux grands défis climatiques et à l'effacement de la biodiversité. Et donc, ils veulent un plan de sortie de l'agriculture industrielle en 10 ans. Plan qui coûterait... un peu des sous, hein.
Oui, ben ça a été estimé, hein. Ça a été estimé à 200 milliards d'euros au total.
Ça commence à faire.
Alors quelque part, on peut se dire que ben c'est beaucoup, mais bon, sur 10 ans, ça veut dire que c'est que 20 milliards par an. La crise du coronavirus, elle nous a montré quand même qu'on peut mobiliser des budgets colossaux.
Hein, oui.
Pour des causes qui
ne
sont pas obligatoirement aussi prégnantes que celles-là, je dirais. Donc,
C'est la base, là.
On ne peut pas tout le temps nous dire il n'y a pas d'argent. Et puis, on se rend bien compte que, ben, si, il y en a de l'argent.
On le met ailleurs.
Voilà, il faut savoir où on le met. Et donc, ben, nous, on aimerait bien que ce soit mis dans ce genre d'action.
Ben voilà, pour conclure l'appel là de Nous voulons des paysans, ils nous disent ce nouveau contrat social doit permettre de produire des aliments de qualité pour tous, sans pesticides, et de les vendre dans des circuits rémunérateurs et stables. L'objectif est fou, mais il est surtout réaliste. Ce qui serait fou, ce serait de continuer sur la voie de la destruction des écosystèmes, évidemment.
Bon, ça rejoint beaucoup de choses qui sont dans nos têtes et j'espère dans les vôtres. Hein. On vit dans le monde qu'on fait. Voilà.
Exactement. Nous sommes ce que nous mangeons, etc., etc. Et on en a plein des phrases comme ça, si vous voulez. Bon, on va faire une petite pause musicale. Au retour de cette pause musicale, je vous parlerai donc de cette fameuse technique japonaise qui permet de produire du bois sans abattre aucun arbre. Attention, magie. Et voilà, ben écoutez, on va écouter un petit peu... Alors, c'est une reprise de Simon & Garfunkel de la chanson Sound of Silence. Et c'est une reprise très intéressante, je trouve, par Disturb. Voilà, Sound of Silence. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my color to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs and voices never shared. And no one dared disturb the sound
Voilà, voilà, nous voici de retour avec Jackie après cette courte pause musicale. J'espère que vous avez apprécié cette reprise intéressante.
Comment on dit ? Vous l'avez apprécié autant que nous.
Voilà. Alors, donc, j'avais dit que je vous parlerais de la technique de Daisuji. J'espère que je prononce bien, hein. Mes amis japonais, ne m'en veuillez pas. Donc, c'est une technique ça, qui date du XIVe siècle au Japon. Et en fait, philosophiquement parlant, cette technique prévoit que les arbres soient plantés pour les générations futures et ne soient pas abattus, mais taillés comme s'ils étaient des bonsaïs géants.
Oui, ça c'est étonnant. Hein.
Elle est incroyable cette méthode en fait. Je viens de découvrir ça et mais ils sont fous ces Japonais. C'est génial. Donc en fait c'est une technique forestière qui permet de produire une tonne de bois à partir d'un seul arbre. Pardon. Le Daisuji, donc cette technique... une technique forestière développée au Japon pour cultiver très précisément le très prisé cèdre de Kitayama.
Oui,
c'était bien la prononciation.
Bien dit,
Kitayama,
bien
sans utiliser aucune terre.
Oui, alors bon, je reviendrai juste sur un petit truc. C'est moi, ça m'a beaucoup surpris, évidemment, moi, l'amoureux des arbres. Et en fait, quand on parle de taille en bonsaï, comme ça, c'est un bonsaï géant. Hein. Il faut
c'est
imaginer
ça.
Quand même que l'arbre s'est beaucoup développé et puis qu'en fait, ça fait un bonsaï géant.
Ouais, on va vous mettre des photos sur Facebook, comme ça, vous pourrez vous rendre compte. C'est assez impressionnant comme technique. En fait, voilà, semblable au célèbre art du bonsaï, le Daisuji impliquait essentiellement de tailler massivement ce qu'on appelle un cèdre mère, afin que seules les pousses les plus droites puissent pousser. Après environ 20 ans, les pousses désormais massives peuvent être soit récoltées comme bois de construction exceptionnel de Kitayama, soit replantées pour repeupler les forêts. Alors, 2 décennies, ça peut sembler long, mais les cèdres cultivés en Daisuji poussent à un rythme accéléré par rapport à ceux plantés en terre. Le temps de l'arbre n'est pas le même que celui de l'homme. Hein.
Mmh.
Et de plus, cette technique forestière ingénieuse donne également du bois de Kitayama qui est 140% plus flexible que le cèdre ordinaire, ainsi qu'une densité et une solidité supérieures à 200% par rapport à un cèdre qui a poussé tout seul dans la terre.
Et oui, parce qu'en fait, ce sont des rejets, hein, quelque
voilà.
part. Hein, donc, avec beaucoup de vigueur. La vigueur, elle est donnée par le fait que l'arbre mère, il a un réseau de racines qui est énorme. Donc, une grosse poussée de sève et ça nous fait des... Voilà, ça, c'est pour mon côté technique.
Voilà, mais il faut. Voilà, il faut savoir que les stocks d'arbres de Kitayama pouvaient supporter des dizaines de pousses droites à la fois et pouvaient être utilisés pendant 200 à 300 ans avant d'être épuisés. Donc, ça fait quand même une durée de production énorme, 200 à 300 ans. Et alors, on peut encore trouver ces arbres mères dans certaines régions du Japon. Et certains d'entre eux ont des troncs d'environ 15 mètres de diamètre, tout simplement. Des trucs énormes, quoi.
Incroyable. Hein. Pour nous, ici, avec un climat européen, c'est quand même assez incroyable.
Ouais. Alors, en fait, cette technique, donc, elle avait été développée au XIVe siècle. Et pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi elle n'existe plus? En fait, on la trouve encore aujourd'hui dans les jardins d'ornement uniquement. Et en fait, c'est tout simplement que la demande de cèdre de Kitayama a diminué fortement au XVIe siècle, de sorte que la popularité de cette technique du Daisuji, en tant que technique forestière, ben, elle a également diminué pour pratiquement disparaître, pour être utilisée uniquement dans les jardins d'ornement. Voilà.
Voilà, mais c'était quelque chose d'intéressant et vraiment, moi, je vous invite à effectivement aller voir sur le site les photos pour que ça soit bien, bien parlant.
Ben, c'est vrai que quand même, à l'heure des énergies renouvelables, tout ça, où on se pose des questions de terre, d'occupation des sols, c'est quand même une technique qui est intéressante et qui peut-être pourrait être développée sur d'autres types d'arbres.
Avec d'autres essences.
Exactement.
Je pensais exactement à ça, oui.
Ouais. Bon, ben voilà, c'était pour la petite histoire un peu bizarre de la nature.
Eh bien, écoute, maintenant, on va passer comme ça, tout de go, aux questions d'auditeurs. On a quelques questions cette émission là, c'est bien, ça nous arrive de plus en plus. Continuez. Sachez que quand vous posez une question, vous faites profiter de la réponse à beaucoup de personnes.
Ouais. Alors on va commencer par la question de Joséphine de Balsièges qui nous demande comment est-ce que je sais quand est-ce que je dois récolter mes courges et à quelle température elles gèlent mes grosses courges.
Alors.
Les cucurbitacées, Jackie.
Une question à deux volets. Je vais répondre à la deuxième. Là. Les courges, comme beaucoup de végétaux, gèlent en dessous de 0 degré. Hein, donc, attention, il va bientôt falloir les récolter comme ça. Mais alors, justement, quand est-ce que je récolte? Comment est-ce que je vois?
Comment on sait?
Ça paraît assez compliqué comme ça. Eh bien, ça se voit au niveau du pétiole. Hein, donc, la tige, en quelque sorte, qui relie notre cucurbitacée au pied, quand le fruit commence à mûrir, eh bien, ça va jaunir.
Et un peu se rabougrir.
Ce pétiole, voilà, va se lignifier un peu, jaunir comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment un signe. En attendant, si ça a été semé un petit peu tard, etc., vous pouvez toujours pailler autour pour essayer de... si ce n'est pas encore mûr, que ça puisse supporter les froids qu'on risque d'avoir maintenant.
Ouais.
Donc voilà, la solution, c'est de regarder le pétiole du fruit avec sa couleur et son aspect, nous dira si la cucurbitacée est mûre ou pas.
Donc le pétiole, c'est la petite queue de la cucurbitacée.
Voilà, exactement.
C'est joli. Alors, puisqu'on est justement dans nos cucurbitacées, on continue avec Valérie de Saint-Chély qui dit... Alors Valérie, elle dit « J'ai planté des coloquintes à côté de mes courges, puis-je récupérer mes graines pour l'an prochain, mes graines de courges ? Ou bien est-ce que je vais avoir des courges toxiques ?»
Alors, on va voir, pas toxiques, mais immangeables en fait. Hein. Il faut savoir que les courges entre elles peuvent tout à fait bien s'hybrider, hein, c'est-à-dire se croiser entre parents comme ça. Et en règle générale, c'est plutôt, comme je l'ai déjà dit pour d'autres plantes, quand on a une reproduction sexuée comme ça, c'est plutôt les critères de résistance aux maladies, de résistance à la sécheresse, etc., qui vont dominer. Et donc, dans mes graines, je vais avoir des graines qui vont me donner très certainement peut-être des courges qui peuvent être un petit peu grosses, mais qui seront aussi immangeables que les coloquintes, hein, c'est-à-dire très, très lignifiées à l'intérieur.
Voilà. Ouais,
donc ça sera pas, voilà. Ça sera pas bon. Il faut mieux ou racheter ou alors quand je veux garder mes graines de courge, c'est en amont qu'il va falloir que je fasse moi-même la pollinisation. Ça, j'en ai parlé aussi dans une émission précédente.
Exact. Ouais.
Donc je vous invite à retourner voir un petit peu. Mais c'est compliqué. Le mieux étant, à mon sens, de racheter quand même quelques graines ou de profiter des trocs plantes et graines pour trouver ce genre de choses.
Ou d'aller frapper chez votre voisin. Bonjour voilà. Voisin, voilà. As-tu des graines de cucurbitacées?
Et on commence par un bonjour et après ça s'arrange.
Allez, maintenant on passe à la question de Nicolas Demande.
Oui.
Nicolas Demande nous demande, quand doit-on tailler la vigne? Juste après avoir cueilli le raisin?
Alors là, pas du tout.
N'importe quoi.
Pas du tout. La taille, la vraie taille.
Perdu.
Alors attention, à l'automne, là, on peut couper des rameaux qui sont devenus très longs, qui gênent, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais on les coupe en laissant une bonne partie sur la treille. En fait, la vigne se taille au début du mois de mars. Et alors, elle se taille à deux yeux. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire, en gros, on laisse 1 cm du départ de chaque branche,
okay.
Pas plus. Parce que même si vous ne voyez pas l'œil, il y a des yeux latents à ce niveau-là et ça suffit largement. Mais ce ne sera qu'au mois de mars quand on ne craindra plus les très fortes gelées. Puisque justement, en taille court, il faut que ça,
oui.
Faut que ça se fasse au printemps.
Hein, il faut
on
ne
peut
le
pas
temps
tailler
soit doux.
Court et laisser l'hiver sur une taille courte parce que là, un hiver froid pourrait nuire à notre plante.
Carrément.
Voilà.
Ok, allez, on continue parce qu'on en a beaucoup des questions d'auditeurs. Ouais. Alors j'enchaîne. Intéressant. C'est parti, Jackie. Maintenant, c'est Claire de Saint-Edémy qui nous dit « J'ai beaucoup de cynorhodons autour de ma maison, mais il n'a pas encore gelé et il commence à flétrir. Puis-je les ramasser ? D'habitude, j'attends qu'ils gèlent. »
Oui, alors on n'a pas besoin, hein. Entendons-nous bien, on n'a pas besoin que les cynorhodons aient gelé, hein, comme par exemple pour les prunelles, les pruneliers ou autres.
Voilà. Un cynorhodon, c'est gratte-cul quand même. Hein.
Voilà, c'est donc le fruit de l'églantier.
Hein. L'églantier.
Voilà. Moi, quand je fais des confitures de cynorhodons, eh bien, je les récolte avant les gelées et mettez-les à macérer dans du vin blanc, par exemple, et vous verrez que ça fera des confitures qui seront assez géniales.
Oh, quelle bonne idée!
Voilà. Donc, j'en profite pour dire aussi pour les prunelles, puisque je
oui.
parlais de ça. Eh bien, au lieu d'attendre bêtement la gelée, puis après il a gelé, oh, puis j'ai plus le temps, et puis le temps n'y est pas, etc.
Ah non, je voulais passer au congélateur.
Voilà,
je t'ai vu venir,
bien.
Je t'ai vu arriver, Jackie.
Eh bien, voilà. Donc, c'est Nat qui maintenant va répondre aux questions des auditeurs. Alors, une dernière?
Allez, c'est la question cette fois-ci, c'est Estelle de Montbel. Estelle de Montbel, elle nous dit « J'ai des cosmos dans mon parterre de fleurs. Est-ce que les cosmos se coupent ou faut-il laisser le plan pour l'année prochaine ?»
Alors,
qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on fait avec les cosmos ?
Eh ben alors, avec les cosmos, on revient presque au début de notre émission, hein, avec les choses à faire à l'automne au jardin.
Oui.
Donc, jardin d'agrément, là. Les cosmos, il faut savoir que ce sont des plantes annuelles. Une plante annuelle, ça veut dire comme en fait les pétunias, comme beaucoup de petites plantes comme ça, les œillets d'Inde ou autres, ils vont s'exprimer complètement pendant la belle saison. Et puis ensuite, ils vont mourir à l'automne, aux premières gelées. Ils vont mourir. Ça fera un paillage. Hein. C'est même pas obligatoirement nécessaire de nettoyer maintenant. On pourra le faire simplement au printemps. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est au bout des tiges, là où il y avait des fleurs, on va voir qu'il y a des graines. Hein. C'est des graines fines et longues, assez faciles à récolter comme ça. Donc moi, mon conseil, c'est on récolte les graines, on les met un petit peu à sécher. On les remet dans un sac en papier en mettant Cosmos 2020. On met ça tranquillement dans un coin au frais jusqu'au printemps. Et au printemps, on pourra ressemer ça et ça nous refera des cosmos. C'est une plante annuelle. Si ça avait été une plante vivace, c'était un petit peu le début de sa question. On l'aurait laissée en place. Et puis l'année prochaine, elle aurait repoussé.
Alors après, on peut aussi la laisser en place, laisser la nature faire, laisser les graines se replanter toutes seules, mais il y a un petit peu moins de chances que ça fonctionne.
Oui, c'est ça. Selon l'hiver qu'on va avoir,
ouais.
En fait, c'est les graines, elles sont faites pour résister. Hein, mais il suffit que pendant l'hiver, on ait un moment où un redoux, par exemple, ou quelque chose comme ça, que les plantes commencent, les graines vont commencer à germer un petit peu. Et si là, on a un coup de gel dessus, eh ben toutes ces graines-là seront définitivement foutues. C'est pour ça que c'est pas mal de les récolter et de remettre ça plutôt assez tôt au printemps. Hein. Moi, je vois fin mars, là, on peut faire des semis comme ça à la volée, à l'endroit où on va avoir nos cosmos l'année prochaine.
Direct, c'est plus prudent voilà, de recueillir les graines. Ok, ben merci Jackie pour toutes ces réponses à ces questions d'auditeurs et d'auditrices.
Avec plaisir.
Et ben maintenant, je crois qu'il faudrait qu'on parle un petit peu des activités que les gens ils pourraient faire là dehors.
Voilà, donc il y a quelques... Oui, on va parler de l'agenda. Là, il y a l'association Jardin Nature 48 qui organise toujours ses ateliers, bien sûr avec quelques contraintes, hein, en respectant les gestes barrières. Sachez qu'il y aura le 17 novembre à 20h à Mende avec Jean-Paul Paradis. Il y aura un atelier sur le travail du sol, justement. Hein, ça continue notre émission. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du travail du sol, justement, cet automne-là. Et puis, sans doute qu'il va jusqu'au printemps pour donner ses conseils.
Bon, ben super. Donc, ne loupez pas ce rendez-vous le 17 novembre à 20h, salle des associations à Mende. Jean-Paul Paradis, un excellent intervenant de Jardin Nature 48.
Voilà.
Alors,
toi, maintenant, tu vas nous parler du plan local de prévention des déchets ?
Ben oui, ça change. Ben oui, parce qu'il il nous faut encore quelques ateliers, donc c'est chouette, donc je vous en fais profiter. Je vous rappelle que le programme local de prévention des déchets, dans ce cadre-là, la participation aux ateliers est gratuite. Alors, pour des questions d'organisation, toujours pareil, hein, avec notre ami le coronavirus, il faut s'inscrire par téléphone et voilà, il y a un nombre de places limité évidemment pour prévoir préserver les gestes barrières. Donc vous pouvez appeler au 07 87 61 76 79 pour vous inscrire aux ateliers que je vais vous annoncer maintenant. Le samedi 17 octobre, vous aurez un atelier compostage à Brenoux de 9h à 11h30 le matin. Ensuite, le samedi 21 novembre, atelier zéro déchet à la maison à Badaroux de 9h à 11h30. Et pour finir cette petite programmation, le samedi 21 novembre également, un atelier zéro déchet à la maison à Riotor de Randon et cette fois-ci évidemment l'après-midi de 14h à 16h30. Donc n'hésitez pas à participer à ces ateliers, ça vous donnera l'occasion de papoter avec des gens, d'apprendre plein de petits trucs et astuces pour réduire vos déchets, être un peu plus autonome, tout ça, ça va dans le bon sens, hein.
Tout ça, oui. Effectivement, on est dans le prolongement de ce qu'on essaye de vous raconter un petit peu à longueur de temps.
Et voilà. Je crois que cette émission touche à sa fin, Jackie.
Oui, écoute, alors on va essayer de conclure. Tout simplement en rappelant aux chères auditrices, à nos chers auditeurs,
oui,
que pour réécouter nos émissions, elles sont toutes disponibles dans la rubrique chronique sur le site internet de 48FM. Je vous rappelle, www.48fm.org. Voilà, la 48FM, la radio sans OGM.
Merci Jackie pour ce jingle. Eh bien maintenant, nous allons vous laisser en musique. Alors, on reste dans la thématique Simon & Garfunkel. Et cette fois-ci, c'est un petit peu plus calme que la reprise de tout à l'heure. Et voici The Boxer. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures nature.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, wet and scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the light, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
And wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me, bleeding me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.